Aïe, 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 aïe. Il y a une drôle de bébite qui vient d'entrer en studio. François Lambert, bonjour.
Salut.
Danny Saint-Pierre, bonjour.
Allô.
François est rentré en disant, ça sent bon, je n'ai pas mangé encore. Fait que là, t'as pas mangé parce que cette semaine, mercredi, je pense, tu nous as dit que tu finissais ton jeûne de 72 heures.
Ouais.
Fait que là, je me demandais si c'était depuis mercredi que tu n'avais pas mangé ou si c'était comme là, t'as pas eu le temps de souper. Puis là, tu viens de me dire, oui, j'ai mangé, mais j'ai pas mangé de la journée encore aujourd'hui.
Non, mais tu sais, faut faire attention parce que je veux pas non plus que les gens se lancent dans le jeûne sans préparation parce qu'il y a une préparation avant de faire ça. Moi, je le fais une fois par mois, 48 heures. Là, j'ai essayé 72 heures pour la première fois parce qu'il y a un phénomène qui se passe entre le 48e et 72 heures qui est intéressant. Et je voulais voir si, un, j'avais la volonté, la force de caractère de regarder tout le monde manger, de sentir la bouffe en entour de nous et ne pas manger. Et 48 heures, c'était vraiment facile. 72 heures, c'était facile. J'aurais pu continuer. Mais ça fait un an et demi que je fais intermittent fasting. Donc, je passe déjà des journées, souvent 18 ou 20 heures sans manger, puis je mange juste pendant 6 heures ou 4 heures. Faut juste mettre ça comme bémol. Là.
Attends un peu. Fait que là, ce matin, toi, tu t'es levé.
Oui.
Puis, tu t'es rien mis dans le corps. Même pas un café, un jus d'orange.
Non, non, café. Jus d'orange, je ne prends plus de jus d'orange depuis 2014.
OK, mais t'as pris un café.
Ben oui, café, lorsque tu jeûnes, tu dois te prendre tes cafés noirs, bien entendu, tes cafés ou eau. Okay. Idéalement, de l'eau salée aussi, parce qu'on a besoin du sel.
Puis t'es sous le choc, hein?
Ah, moi, je me lève, faut que je mange. J'ai un trou, j'ai besoin, sinon je suis comme pas fonctionnel. J'ai besoin de carburant, on dirait.
Mais comment t'as commencé? Parce que tu t'as pas commencé ça du jour au lendemain, là.
Non, mais tu sais, je le voyais passer, puis honnêtement, sur Instagram, je voyais ça passer, puis ça me tapait ses nerfs. Parce que ceux qui le font, essaye de convaincre tout le monde en
oui,
entour de
preach,
autres.
Là, ça preach,
ça preach, puis ça m'énerve. Fait que j'ai dit, c'était pas comme ça. Puis un gars avec qui je nage, Alexandre Leduc, que ça fait 25 ans qu'on nage ensemble, lui, c'est un gars qui prône la santé, mais qui essaie pas de convaincre personne. Il est végétalien, il fait ses affaires, puis il m'en parle, mais sans plus. Puis il m'a dit, François, regarde, tu regarderas cette vidéo-là de tel docteur que j'oublie, qui est de la sommité dans l'intermittent fasting. Et je regardais ça à un moment donné, juste avant de souper. J'ai fait comme, ben cool, lui. Il vient de m'expliquer les bienfaits sans essayer de m'emmener dans sa secte.
Okay. Martin Junot, le cardiologue, qui l'explique très bien, d'ailleurs.
Oui.
OK, mais c'est quoi les bienfaits, là? Faut que tu m'expliques.
Vas-y, Nani.
Les bienfaits, ben tu fais une pause à ton organisme, tu contrôles, tu consommes ce qui a déjà été entamé, tu réussis à couper ta charge calorique d'au moins 33% parce que tu skips momentanément un repas. Puis après ça, ben là, je pense pas que c'est le bar ouvert pour manger du pudding chômeur puis des livres de bacon, là, tu sais, on n'est pas dans le kétoïsme non plus.
Tu sais, même je le fais le kéto, mais pas. Moi, je suis dans le plaisir de vivre. Mm-hmm. Quand il fait beau à soir, je vais revenir à mon chalet tantôt. C'est sûr, je vais prendre du vin ou une bière. Là, Danny a dit qu'il avait amené une pizza. J'ai pas mangé encore. Ouais, ça se peut que je la prenne ou je le sais pas parce que la réalité, c'est que je fais de la route aujourd'hui beaucoup et j'ai tendance à m'endormir sur la route. Et ça, c'est un des bienfaits. C'est que je m'endors pas parce que mon estomac est pas en train de digérer Un des plus grands bénéfices du fasting, du jeûne, c'est l'autophagie qui a été découvert qu'un un chercheur a eu un prix Nobel, je pense, en 94. C'est que le corps, après 18 heures, commence, bien entendu, à manger ses graisses. Il faut qu'on se nourrisse. Donc, on tombe en mode keto, mais sans la bouffe. Et le corps tombe ce qu'on appelle en autophagie. Et là, ce que ça veut dire, c'est « self-eating ». Mm-hmm. Donc, on fait pas des jokes. C'est vrai. Ouais, donc, il mange des cellules mortes. Les cellules qui pourraient être cancéreuses. Puis encore là, faut faire attention. Là. Mm-hmm. Je suis pas un docteur, je suis juste un gars qui est très intéressé, qui lit là-dessus depuis plus de 2 ans.
Parce que tu fais ça que tu n'auras pas le cancer dans la vie, là.
Non, mettons que je l'ai ou j'ai. Tu sais, chez nous, ce qu'on a, de la haute pression. On a des problèmes cardiaques, on a du cholestérol, du diabétique. Moi, j'ai rien de ça, mais peut-être je l'ai génétiquement, mais sauf que. Un, je fais souvent des jus verts. J'essaie de mettre les chances de mon bord. Ça m'empêche pas d'un soir de trop boire, puis le lendemain matin, me dire pourquoi j'ai bu tant de vin que ça. C'était pas la deuxième bouteille était pas nécessaire, mais pas tout seul, là. Ok.
Mais as-tu vu la face à Jean-François?
Ah non, moi je suis choqué.
Tu dois recevoir ça souvent, cette espèce d'incompréhension là. Tu vois, comme moi, ma belle-mère, elle comprenait pas pourquoi qu'on faisait ça chez nous. Tu sais, mon beau-frère, ma blonde, moi, on le fait le plus souvent possible, ça devient naturel. elle jusqu'à temps qu'elle l'essaie. Mais ça a été long à la convaincre, là, puis ça la choquait. Elle comprenait pas.
Ben moi, ça me choquait de voir les preachers sur Instagram. Et le but n'est pas ça de dire, moi, je le fais, ça m'apporte des bienfaits, j'ai un poids santé sans être obligé de m'entraîner parce que j'aime manger. Et la réalité avant, là, comme aujourd'hui, je fais de la route un peu partout, j'aurais tout fait mon horaire en fonction de manger. Là, j'ai pas ce souci-là. Je sais que je suis capable de ne pas manger pendant 18 heures. Je bois de l'eau, là, bien entendu, là. Mais je suis pas obligé de faire mon horaire. Ah, c'est vrai, faudrait que je mange là. Ouais, je vais être sur la route, m'arrêter dans un fast-food. Ouais, mais ça me tente pas de manger un fast-food, mais rien que ça. Faudrait que je me fasse un lunch. Ouais, mais manger une salade en auto, ça marche pas.
c'est la gymnastique.
mais je veux dire, il y a pas un moment, là, sur ton 72 heures où à un moment donné, t'as une petite faiblesse où tu fais comme, on dirait que je manque de gaz. Ça peut être dangereux pour certaines personnes. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de sucre, qui ont besoin de manger. Y a-tu des gens pour qui ça pourrait être être approprié?
Ben, je vais peut-être laisser Danny. Moi, pour moi, j'ose pas répondre à ça parce que je suis pas un médecin. Puis les médecins peuvent répondre à ça parce que je voudrais pas que quelqu'un ait un impact. La réalité, c'est que 72 heures à boire de l'eau puis du café, c'est pas un souci du tout au point de vue. J'avais peur dans la troisième journée parce que je le fais souvent le 48 heures. Je le fais à tous les mois depuis un an sans exception. Le 72 heures, c'était comme un défi personnel puis de voir. OK, moi, je suis entouré de popcorn, de barbe à papa puis de meringue.
Mais c'est ça que je pensais, au niveau du sucre puis tout ça.
Je sens ça à plein nez.
Ça t'écœure plus?
Ben, je suis obligé de faire un blocage. La seule chose qui me manque, ce que j'aime faire dans la vie, moi, dans ma période que je mange, c'est d'ouvrir. J'ai mon pot de beurre d'arachide à moi, OK, puis je le mange à la cuillère.
Ouais. Moi aussi, j'aime ça faire ça.
Et là, je t'avoue que cette habitude-là me manquait. T'as mal au mâchoire aussi parce que c'est un muscle qu'on travaille à part que parler, on l'écrase, on le fait travailler le muscle. Il travaille pas pendant 3 jours là. Mais je le fais. C'est sûr que la troisième journée, c'est un peu un voyage spirituel. Hein? C'est vraiment en dedans de toi. T'es concentré là comme jamais. Et ça, les gens peuvent le lire. Je sais pas, Danny, c'est toi, mais moi, je deviens hyper concentré. Et il y a rien. Tu peux me faire la tâche routinière la plus plate, m'en faire un robot.
Hein? Moi, je vais commencer par sauter un repas, là. Puis on verra pour le 48 heures.
Mais il n'y a pas de réponse uniforme non plus. Tu sais, tu te demandais tout à l'heure, là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire ça et des gens qui peuvent pas. Tu sais, il y a autant de systèmes qu'il y a de personnes rendues là. Je pense pas qu'il y a un one size fits all. Chaque personne s'adapte puis suit, puis c'est bien recommandé d'aller voir son médecin et d'en discuter avec lui.
Bon, Joanie. Ma belle Joanie, qui est à la console, as-tu ce qu'on appelle un swipe? Parce que là, on va faire comme une petite pause. Puis après ça, on va partir dans notre vrai sujet avec nos deux intervenants.
Jean-François Barry.
Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
Cube Radio.
Un été pas comme les autres.
OK, parce que ça, c'était pas le vrai sujet aujourd'hui. Là. C'était pas ça notre discussion médium saignant à propos
de. C'était
le
fun, par exemple.
Mais c'était le fun. Oui. Puis j'ai encore la mâchoire décrochée, là, parce que j'en reviens pas. Mais non. Donc, avec François Lambert et Danny Saint-Pierre, aujourd'hui, le sujet pour ou contre l'idée de financer les bars pendant la COVID. Ça a fait débattre beaucoup cette semaine. La plupart disent, gars, financez-nous, là. On va rester fermés. Ça va régler tous les problèmes. Vous en pensez quoi? Danny, la parole est à toi.
Ben, moi, ce que j'en pense, c'est que je me demande combien ça coûte un patient du COVID qui est intubé. Combien ça coûte d'après vous?
Trois semaines à l'hôpital.
Ouais.
C'est à peu près ça.
Les médecins.
Combien ça coûte un patient intubé par jour, admettons? On doit s'en aller à 25 000.
Peut-être.
Combien?
25 000 par jour?
5 000, peut-être.
5 000, tu penses?
Ouais, pas 25, là.
25, c'est une grosse opération, là.
Ouais.
Mettons 5 000.
5 000, 5 000 fois 30 jours.
150 000.
Ben moi je pense que un gros bar, admettons une grosse discothèque de 5000 pieds carrés avec l'électricité, le loyer à maintenir puis les coûts encourus là, tu dois être à gros top 10 000 par mois
à peu près.
Fait que moi ma réponse est là. Fait que si tu peux sauver une personne d'intubée pendant tout ce temps-là pour que une opération puisse maintenir, parce que tu sais, si on décide de dire OK, laissons le marché s'occuper de ces gens-là, on va leur empêcher d'ouvrir ou on va les faire fermer à minuit quand leur business se fait de minuit à 3 heures, on leur force la main. C'est pas un acte, c'est pas un accident là, c'est une gouvernance qui décide. Fait que moi je me dis le coût social de rester ouvert, il est là. Je pense qu'on devrait subventionner ces opérations là
c'est un bon point, François.
Ben moi, je suis dans plus dans l'optique. Là, on vient d'avoir le budget qui vient d'être déposé. La mise à jour qui est de 343 milliards. Et la réalité, là, c'est que tant qu'on n'a pas un vaccin, si on y va pour les sauver, faut les sauver tant qu'on n'a pas un vaccin. Parce que c'est impossible d'aller dans un bar puis à regarder un mur. Reste chez vous, prends ton verre tout seul. Là. Ouais. C'est ça qu'on va demander aux gens. Va dans le bar, mais porte un masque quand tu vas te lever. C'est impossible. Après deux verres, c'est pratiquement impossible. Et la réalité, c'est que sont déjà chanceux ici d'être encore permis d'être ouvert jusqu'à minuit. C'est temporaire. La réalité, il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Las Vegas vient, à partir d'aujourd'hui, de fermer tous ses bars encore. Miami les a fermés cette semaine. Ils ont rouvert à cause de la pression, mais ils vont les refermer encore. En Corée du Sud, fermé aussi. Donc, c'est un peu partout qu'on ferme les bars. C'est impossible d'avoir la distanciation sociale alors qu'on demande ça. Combien de temps? Combien de temps qu'on va les sauver? Et, tu sais, le problème, c'est que les bars, alors que sont supposés faire leurs frais à moins d'être à pleine capacité, ils ont un tiers de personnes en ce moment. Déjà là, en partant, ils sont même sur papier, parce que c'est ce qu'ils disaient avant. Si on écoute Peter Sargakis,
ouais.
Donc si on l'écoute, lui, il faisait pas d'argent avant. Donc là, il demande un tiers, il en fait pas encore. Donc quand même qu'on les garde ouverts en ce moment, il est techniquement à perte. Donc,
ou il disait pas la vérité.
Ou il disait pas la vérité.
Qui sommes-nous pour le dire à sa place?
Non, mais
s'il affirme ça, il affirme ça. Moi, je suis pas principalement l'avocat des bars en général. Moi, ce que je souhaite faire, par exemple, c'est une distinction entre les types de bars. Tu sais, pour l'ensemble de la population, là, oui. On voit les bars comme étant un entrepreneur de seconde zone, comme les restaurateurs d'ailleurs. Tu sais, on est bien content quand les propriétaires de bars achètent des montagnes de boissons puis payent des taxes là-dessus, engagent des gens pour travailler. Ont des meufs pluggés sur leur caisse, les meufs qui est le système pour être capable de suivre les ventes, hein, qui est pratiquement la seule industrie avec la restauration où il y a de l'argent noir, soi-disant. Là. Puis après ça, ben là, quand ils sont rendus à avoir besoin d'aide, ben là, on n'aime pas ça, on trouve ça sale. On n'a pas envie de leur toucher. Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite comme truc.
T'as l'impression que c'est pas considéré comme n'importe quel autre entrepreneur. Quelqu'un qui a une plomberie, oui. Quelqu'un qui a une quincaillerie.
Quelqu'un qui installe des éoliennes, quelqu'un qui travaille dans l'aéronautique puis qui doit être sauvé. Tu sais, rendu là, tu sais, un bar tout seul, c'est une petite affaire. Mais l'industrie au complet, c'est un gros morceau de notre économie. Fait que je trouve ça particulier. Je trouve que c'est une bonne discussion à avoir.
Ben, quelque part, t'as raison, mais il reste que je suis pas d'accord non plus de subventionner Air Canada puis tout le monde. En partant là, puis si on parle d'Air Canada, Air Canada a eu des free pass toute leur carrière et ils sont en train d'en avoir une. Ils ont annoncé qu'ils fermaient les régions. Là, ils sont en train de négocier. On fait une parenthèse. Là, ils sont en train de négocier avec Bonardel pour dire OK, on va permettre des liaisons faciles. Donc, parce que sous-entendu, donnez-moi de l'argent puis je vais permettre ça facilement. Ça a toujours été la méthode d'Air Canada. Et au nom des régions, ils ont tout le temps ce qu'ils veulent. Les bars, le problème, c'est que, sans le nommer, mais je vais le dire pour le besoin de la discussion, un bar comme le Fly Gin, une place que j'allais avant, une place qui est cool, qui est reconnue, c'est la place à Montréal. Tu ne peux, c'est impossible d'ouvrir ce bar-là dans la version avant COVID en ce moment. Donc, tu es obligé d'ouvrir la version restaurant avec le bar qui est là, qui va être à peu près, un coup que tu as mis 30 personnes là-dedans, t'es plein craqué, alors qu'il en rentrait probablement 150 avant. Est-ce qu'il peut survivre avec ça? Je doute.
Vraiment pas?
Probablement pas. Est-ce qu'il faisait énormément d'argent avant? On le sait pas, puis c'est pas de nos affaires.
Okay.
C'est une entreprise, tant mieux, parce que si on se lance en affaires, avec les risques que ça comporte, ben tant mieux s'ils font de l'argent. Mais il reste que ils ont même pas le droit d'avoir la subvention au tout début du COVID des bars. Ça, je suis pas d'accord avec ça.
La NABQ, qui est la nouvelle association des bars, s'est vraiment impliquée puis a travaillé super fort pour représenter justement un pan de l'industrie qui est pas les strip clubs, les trucs de machines puis les discothèques là. Juste les bons restos-bars, les brasseries artisanales. Puis c'est un gros combat. Un bar, c'est une PME. Puis c'était le slogan. Puis ça a été très 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 long. Puis même ça a été long qu'ils puissent retrouver le droit de pratiquer de la restauration puis de servir de l'alcool. Fait que tout le monde survit, un peu comme tout le monde d'ailleurs.
Oui.
Mais c'est un gros bar ouvert. On a vu les chiffres sortir cette semaine au niveau de la dette. Pourquoi que ce serait un seul pan de l'industrie qui aurait à faire les frais de l'ensemble de la population qui, elle, a réussi à ramasser son morceau. Parce que moi, je suis à la même place que toi, là. Quand je vois des free pass se faire aller, là, mon libertarien intérieur est en tabarnouche.
Ben oui.
Mais après ça, je fais comme, OK, nous deux, là, on est là, puis on se pète les poings sur la table. Puis qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, tout le monde? On dirait que tout le monde dort.
Oui.
Ça fait capoter.
Ben, en fait, on a... Pensez-vous qu'il y a un peu du fait que sauver les bars, c'est pas un move politique qui serait très payant? La population est pas du côté des bars. Apparemment, moi, j'ai des amis qui vont dans des campings les fins de semaine. Apparemment, dans les campings, c'est la même affaire. Il y a rien qui est respecté. Tout le monde est sur le bord de la piscine, puis ça se touche, puis envoie donc, il y a pas de problème. Mais ça, c'est les petites familles, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ben c'est comme populaire de, tu sais, on tapera pas ces campings. Taper ces bars, ça n'a pas un gros capital sympathie.
On imagine tout le temps les bars reliés au crime organisé.
Voilà.
On imagine tout le temps le bar avec le pusher de coke dans les toilettes.
Voilà.
On imagine tout le temps le bar avec les paumés du village qui sont là complètement torchés puis qui font honte au reste de leur famille. Mais tu sais, un bar, là, c'est un endroit où tu vas prendre un verre, où il y a du monde avec des cravates, puis il y a des ministres, puis il y a des travailleurs, puis ils se retrouvent ensemble, puis c'est un échantillonnage de la population. Moi, je pense pas qu'on peut le vilner, ces bars. On y va tout dans les bars.
Je suis d'accord avec toi, mais moi, j'en reviens encore à l'optique qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Et il reste que ce divertissement-là est un des derniers dans l'échelle. S'il y avait une échelle de Maslow de la nécessité, ce qu'on a besoin dans la vie, il reste qu'aller dans un bar et une des dernières choses. On peut socialiser d'une autre façon. Le problème, c'est que si on le savait, qu'on a un vaccin qui va être disponible le 22 décembre 2020, on pourrait dire parfait. Jusque-là, on va donner un coup de main. Mais le vaccin, il y a des rumeurs, il y a des peut-être, on est peut-être en phase clinique 1, whoops, mais on ne le sait pas encore.
Mais ces gens-là ont suivi les règles depuis le début. T'sais, la plupart des entrepreneurs, t'sais, si on part de ce chapeau-là, hein, le chapeau de l'entrepreneur, tu vas payer tes taxes, tu vas déclarer tes factures, tu vas engager des gens puis tu vas les payer en haut de la table. Tu vas leur donner un bon salaire, tu vas payer ton loyer, tu vas faire des rénovations, tu vas faire tout ce qu'il faut. Puis après ça, quand c'est rendu que ton industrie, malheureusement, est au top de la pyramide de Maslow, on te laisse aller, on te laisse tomber. Je trouve que notre contrat social suce, rendu-le.
Oui, mais Danny, le problème, là, c'est que quand on va d'un bar, on va pour socialiser.
Tout à fait.
Et là, ce qu'on nous demande, c'est de ne pas socialiser à 2 mètres. De socialiser, mais à 2 mètres. Dans une discothèque où ce qu'on se crie, par la musique est tellement forte, quand même qu'il baisse les décibels, on va se rapprocher un de l'autre. Là.
Ben, moi, je suis d'accord avec toi, mais la solution, on la connaît. C'est un patient de COVID, ça coûte combien? Endurer les bars qui valent la peine. Parce que ça aussi, si l'entreprise
était profitable, qui valent la peine?
Ben, ceux qui ont un bilan à présenter qui est profitable, qui était une entreprise qui était en santé. Combien de personnes ont ramassé le 40 000 qui était proposé par nos bons gouvernements dans le bar ouvert où tu faisais juste cocher un petit truc sur ton accédé à la caisse, là?
Oui.
Puis là, t'as 40 000 qui se déposent dans ton compte.
Non seulement t'as 40 000, si tu le rembourses, tu vas garder un 10 000 du 40 000.
Tu fais un 10 000 vite, vite. Tout le monde puis sa mère l'a ramassé.
Oui.
Tout le monde a sorti sa vieille compagnie à numéro puis l'a fait. Ben ça là, c'est un exemple de laxisme.
Ben il y a eu tellement de laxisme que ça nous a coûté 343 milliards. Puis moi ce que je dis c'est qu'il faut pas continuer dans cette optique là.
Je sais bien.
Trudeau est un des gouvernements les plus dépensiers de l'histoire. Et hier dans ma chronique on en a parlé.
Oui.
Son père a mis le Canada à genoux. Mm-hmm. Ça a pris 30 ans avant qu'on se remette. Au moment où qu'on commence à respirer, qu'on commence à dégager des bénéfices, des surplus, qui nous remet à terre, alors qu'on n'était pas encore en COVID, Justin...
C'est une lignée de sang.
Oui, oui, il y a la génétique de la dépense.
La génétique de la dépense.
Puis moi, je regarde les bars, je suis triste pour eux. Je suis triste pour bien des magasins qui tombent aussi, mais à un moment donné, il faut dire... Malheureusement, vous avez choisi le domaine de l'entertainment, parce que c'est ça. De nous divertir, de nous vendre l'alcool, mais de nous attirer, je pense qu'on peut pas vous sauver.
Moi, j'ai l'impression aussi, puis c'est peut-être juste une impression, mais dans n'importe quel village, ville, il y a toujours un bar qui est là pendant 1 an et demi, 2 ans, qui ferme. Là, tu fais, oh mon Dieu, le bar est fermé. 1 mois après, oh, il est rouvert sur un autre nom. Oh, 6 mois après, il est fermé. Oh, il rouvre sur un autre nom.
Ben,
c'est la même chose avec les restaurants. Fait que j'imagine que le gouvernement se dit, bon, hein, que le bar ferme là, à cause de la COVID, aussitôt que la COVID va être finie, dans ce local-là, il va repartir un autre bar de toute
façon.
Il a l'air d'avoir un engouement pour les bars.
Faut séparer le bar de la discothèque. La discothèque, dans son ensemble, c'est impossible à ouvrir dans l'optique actuelle.
Tout à fait clair.
Ça, c'est, donc, dès que tu peux pas être assis, que tu es debout, faut que tu fermes cette place-là. Tu ne peux pas, faut que tu lui dises, gars, tu restes assis. Donc, ce qu'on a vu au Mile End,
c'est le Mile Supper Club.
Ouais, exactement. Tout le monde est dehors, tout le monde socialise, 80 personnes ont la COVID. Pourquoi qu'ils sont obligés de la fermer partout? C'est justement à cause de ça. Moi, regarde mon entreprise, là, j'ai la chienne, OK? J'ai acheté deux guns. Les employés arrivent le matin. Le gun à température.
Okay, des guns de même, là.
Mais excuse-moi.
Moi, si je me demandais,
excusez-moi.
Le gars, il fait des meringues à l'érable, puis il y a deux guns à l'entrée.
Excusez-moi. Le sirop d'érable a monté, là. Vous partirez pas avec mon sirop! Mais
moi-même, je me prends à température parce que si j'attrape la COVID quelque part sans le savoir, je veux pas faire fermer mon entreprise. Moi, me retirer avant de me présenter dans les locaux le matin. Et c'est standard maintenant pour tout le monde. J'ai la chienne que j'avais des 19-20 ans. La beauté, c'est qu'ils s'auto-éliminent. Ils veulent pas beaucoup travailler à cet âge-là.
Ce qui me fait capoter aussi, c'est qu'on laisse le marché décider. Puis après ça, ben là, on se retrouve avec des gens qu'on a besoin de traiter. Fait qui se remplit les poches rendu là?
Ceux qui se sont remplis les poches en ce moment, c'est les entreprises. Regarde encore Air Canada. Mm-hmm. Air Canada, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient tous les employés à la maison. Il n'y a pas de vol.
Mm-hmm.
Oh, il y a une subvention de Trudeau. On rappelle tout le monde. La réalité, là, c'est que ces gens-là ne reviendront pas au travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné. En attendant, ils ont ramassé 165 millions, je pense, le chiffre. Alors qu'on aurait dû dire aux gens, regardez, soyons ludiques, soyons lucides, tu ne retourneras pas travailler. Donc, à la minute que tu ne retournes pas travailler, regardez, on va vous payer pour retourner à l'école. Ça, j'aurais aimé ça voir un gouvernement dire, tu ne retourneras pas dans ce métier-là avant 3-4 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a déjà l'assurance chômage qui existe. Donc, on t'envoie à l'assurance chômage et on te donne un programme pour aller étudier dans un autre domaine parce que les agents de bord, il va en avoir beaucoup de disponibles dans les prochains mois. Mm-hmm. Ça, j'aurais aimé voir ça. Ça aurait été plus intelligent que de donner 165 millions pour qu'ils payent des gens à rien faire à la maison. Puis après ça, les gens retournent sur la PCU. On a eu ça aussi.
Fait que dans le fond, le bar, c'est un exemple. Puis ce que ça prendrait, c'est une gouvernance plus serrée pour relancer l'économie avec des mesures qui sont directes.
Exactement, parce que les bars... J'entends Christiane Germain qui dit, écoutez, nous, les hôtels, on est obligés de fermer.
Ça va pas mieux.
Ça va pas mieux.
Moi, je suis dans un hôtel, là, c'est vide depuis deux semaines. Là.
Fait que si on fait les bars, on fait les hôtels.
Mm-hmm.
Donc, si on fait les hôtels, ben là, faut faire toutes les boutiques qui ont fermé pendant ce temps-là.
Les restaurants, les trucs touristiques où il n'y a pas un chat. Là, on se ramasse qu'on continue sur le 343 millions.
Ben, il n'y a plus de limite. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui a dit, inquiétez-vous pas, je m'occupe de vous, comme il a fait avec les immigrants aussi. Venez chez nous, on va vous accueillir. Le Canada est un pays qui va vous accueillir. Et on a une passoire au chemin Roxham qui finit plus. Le problème, c'est qu'il a fait une gaffe. Et moi, j'imagine Bill Morneau, le ministre des Finances, qui doit aller présenter quelque chose quand son boss dépense comme un enragé. il doit se sentir mal à l'aise, mais moi je dis, regarde, faut arrêter tout ça, faut accepter que il y en a qui vont tomber, faut l'accepter. Et mais par contre, mettons des programmes pour que les gens retournent aux études.
Il y a la BDC qui fait des bons programmes de prêts, justement, qui avec des remboursements qui sont déplacés pour les entreprises qui veulent continuer à se développer ou changer de vocation. Ça, c'est une avenue qui est intéressante. Moi, mon souhait, c'est qu'on mette pas tous les établissements dans le même panier, que ce soit la restauration, que ce soit la brasserie, le lieu où tu peux t'asseoir, le lieu où tu es debout. Je suis terrifié à l'idée que la Gestapo de la santé débarque. Puis qu'on se retrouve avec des gros tickets parce que t'as pas mis ta visière, tes goggles, ton masque, tes gants, ta combinaison. Pis ça s'en vient là. Puis tu te retrouves, tu t'en vas au supermarché, puis c'est correct. Pis tu te retrouves dans un restaurant, puis c'est plus correct. Il y a aucune fucking cohérence.
Ouais.
C'était très intéressant de vous entendre, François Lambert, Danny Saint-Pierre, à notre discussion médium saignant. Et vous restez avec nous parce que vous allez participer au quiz.
Yes.
François, j'ai vu baisser les yeux.
Mon micro marche pas, j'entends mal dans mes écouteurs.
T'aurais dû manger, tu vois, t'aurais dû manger avant d'arriver. Le quiz d'Alix sur la revue de la semaine, au retour.